Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, le monde. Aujourd'hui, édition du jeudi 24 juillet 2014, en direct de Washington. Bagassi Koura et Anne Alverson. Bonjour Anne.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition, crise centrafricaine, un accord a été signé hier à Brazzaville entre les belligérants pour la cessation totale de toutes les hostilités.
Tout le monde vraiment était émotionné, et puis il y avait l'hymne national qu'on avait chanté pour montrer l'unité des Centrafricains et l'ambiance dans la salle, il y avait des émotions.
Voilà, un grand signe d'espoir dans le nord du Nigeria. Un double attentat a fait hier plus de 40 morts à Kaduna. Le Rwanda a un nouveau premier ministre en la personne d'Anastase Murukezi, un ingénieur agricole. Le président gambien Yahya Jammeh a 20 ans de pouvoir et les ONG exigent qu'il mette fin à l'impunité dans son pays.
Le citoyen lambda vit sous un régime de terreur, mais encore plus tous ceux qui essayent de s'exprimer publiquement contre le régime, et cela comprend évidemment les journalistes.
Crise israélo-palestinienne, le secrétaire d'État américain John Kerry a quitté Israël pour le Caire, toujours à la recherche d'un cessez-le-feu. Et vous aurez en fin d'émission les sports et la musique, pour l'instant, le journal.
Le forum de Brazzaville sur la crise en Centrafrique s'est donc soldé par un accord entre les belligérants pour la cessation totale de toutes les hostilités. Les milices anti-Balaka et la coalition Seleka se sont engagées à prendre des mesures immédiates pour le rétablissement de la paix et la poursuite du dialogue inter-centrafricain. Compte rendu de Nguela Ngosu à Brazzaville.
L'accord contient les engagements des partis centrafricains, principalement l'ex-coalition Seleka et les anti-Balaka, qui se sont engagés à mettre fin aux hostilités en République centrafricaine. Donc il n'y a plus de guerre à en croire cet accord. Ensuite, les deux parties et les autres d'ailleurs qui ont signé cet accord se sont également engagés à mettre fin à la campagne des haines communautaires. Les partis se sont également engagés à lever toutes les barrières pour permettre la libre circulation des biens et des personnes sur toute l'étendue du territoire centrafricain. L'accord prévoit également que les partis se soient engagés à travailler ensemble pour préparer le dialogue politique qui aura lieu en République centrafricaine dans une formule un peu plus large que le forum de Brazzaville.
Nguela Ngosu, que nous entendrons plus longuement sur cet accord, tout de suite après ce journal.
Dans le nord du Nigeria, un double attentat a fait hier plus de 40 morts à Kaduna. Un couvre-feu de 24 heures a été instauré dans cette ville. Plus de détails avec Sarah Diaby.
Mukhtar Hamalan Yero, gouverneur de l'état de Kaduna, a imposé hier un couvre-feu de 24 heures dans la ville peu après ce double attentat. La première attaque, perpétrée par un kamikaze, a fait au moins 25 morts et une deuxième explosion a fait au moins 17 morts. La première attaque semblait viser le convoi du cheikh Dairouboshi, mais le chef religieux n'a pas été touché. Il a souvent condamné publiquement la violente insurrection menée par Boko Haram. Le groupe islamiste accuse les chefs religieux musulmans de cette région de se soumettre à l'autorité du gouvernement fédéral dirigé par le président Goodluck Jonathan, un chrétien du Sud. Kaduna, la capitale politique du Nord, a été jusqu'ici relativement épargnée. En 2012, des attentats contre des églises avaient entraîné de violents affrontements interethniques qui avaient fait des centaines de morts.
En Somalie, une députée et chanteuse célèbre, Sado Ali Warsame, a été abattue hier dans la capitale, Mogadiscio, en même temps que son chauffeur, par des insurgés islamistes Shabab. Michel Joseph.
Des tireurs en voiture ont ouvert le feu sur son véhicule dans un quartier du sud de la capitale. Son chauffeur a aussi été tué. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Les Shebab avaient promis en avril dernier de tuer un à un tous les parlementaires accusés d'être des mécréants au service des intérêts de l'étranger. Chassé de Mogadiscio en août 2011, mais toujours présent dans les zones rurales, les islamistes Shebab ont multiplié récemment les attentats contre les institutions somaliennes. Ils ont aussi revendiqué une série d'attaques meurtrières dans des pays voisins engagés militairement en Somalie comme le Kenya et l'Ouganda.
épidémie d'Ebola en Sierra Leone. Un responsable médical du centre de traitement de Kenema a été testé positif au virus. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement alors que 3 infirmières du même centre sont récemment mortes. Kenema est situé dans l'est de la Sierra Leone, une des régions les plus affectées par l'Ebola. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, 422 cas ont été recensés en Sierra Leone, dont 143 mortels.
Au Rwanda, le président Paul Kagame a nommé hier Anastase Murekezi au poste de Premier ministre. Plus de détails avec Lionel Gaïma.
Anastase Murekezi remplace Pierre Habumuremyi qui occupait le poste depuis 2011. La présidence rwandaise n'a pas donné des raisons pour ce changement. Ministre du Travail depuis 2008, M. Murekezi devient le 5e Premier ministre rwandais depuis le génocide de 1994. Le tout nouveau chef du gouvernement est ingénieur agronome de formation. Il est membre du Parti social-démocrate, le 2e parti du pays, en coalition avec le Front patriotique rwandais. Il a 62 ans, marié et père de 2 enfants. Il doit maintenant former une nouvelle équipe. Le Rwanda fait partie des rares pays africains à afficher d'importantes réussites, selon la Banque mondiale. Le taux de pauvreté a baissé d'environ 25% et les inégalités ont été réduites. En 20 ans, le pays a multiplié par 5 son PIB. Mais le président Paul Kagame est accusé d'alimenter les rébellions dans l'est de la RDC. Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a quitté Israël pour le Caire. Il s'efforce d'obtenir par tous les moyens un cessez-le-feu entre Israël et les militants palestiniens dans la bande de Gaza, ici à Kaba.
Kerry n'a fait aucun commentaire après sa journée de discussion avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président palestinien Mahmoud Abbas et le chef de l'ONU Ban Ki-moon. Mais M. Kerry avait déclaré auparavant que des progrès avaient été réalisés. 2 semaines de frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza, en réponse aux tirs de roquettes du Hamas, ont tué près de 700 Palestiniens. Presque tous sont des civils. 34 Israéliens ont été tués, la plupart des soldats. Le président israélien Shimon Peres a qualifié cette violence de situation impossible, mais il a confié à John Kerry avoir toujours bon espoir de trouver une solution. Mais le dirigeant du Hamas, Khaled Mekal, dit qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu tant qu'Israël ne met pas fin au blocus de longue date de Gaza qui a paralysé l'économie et empêche les Palestiniens de voyager.
Ajoutons que le Mali observera demain, vendredi, une journée de deuil national en hommage aux victimes des événements dans la bande de Gaza. Selon l'AFP, cette décision a été prise hier à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres.
La FAA, l'Agence fédérale de l'aviation américaine, a levé l'interdiction faite aux compagnies aériennes de desservir Israël, mais a mis en garde contre la situation très instable localement. L'agence avait interdit cette desserte une première fois mardi pour 24 heures, après la chute d'une roquette palestinienne près de l'aéroport international Ben-Gourion. Cette interdiction avait été renouvelée mercredi. La plupart des grandes compagnies internationales avaient annulé leur vol vers Israël jusqu'à jeudi, en mettant en avant la sécurité des passagers.
De nouvelles dépouilles de victimes de l'avion malaisien écrasé en Ukraine devraient être rapatriées ce jeudi aux Pays-Bas. L'Union européenne prévoit de renforcer les sanctions contre la Russie pour son rôle dans la crise. Hier, près d'une semaine après le crash du Boeing 777 de la Malaysian Airlines, à la suite d'un tir de missile, 2 avions de chasse ukrainiens ont été abattus à quelques dizaines de kilomètres du lieu de la catastrophe. Kiev affirme qu'ils ont été touchés par des missiles lancés depuis le territoire de la Russie.
Par ailleurs, 9 étudiants nigériens sont pris au piège dans l'est de l'Ukraine. Ils seraient détenus par les séparatistes pro-russes, Morgan Guiriec.
Un responsable ukrainien a affirmé hier que des négociations sont en cours pour obtenir la libération des 9 étudiants nigérians détenus par les séparatistes à Luhansk. Le colonel Andriy Lysenko, porte-parole du Conseil national de défense et de sécurité de l'Ukraine, a déclaré dans une conférence de presse que des personnes expérimentées sont en contact avec ceux qu'il appelle des terroristes et qu'il espère que les discussions pourraient se terminer avec succès dans un futur proche. Les journaux ukrainiens ont rapporté le kidnapping des étudiants nigérians lundi, indiquant qu'ils seraient détenus dans un bâtiment public occupé par les séparatistes pro-russes. Luhansk est situé au cœur de la zone contrôlée par les rebelles, près de la frontière avec la Russie.
et 48 personnes sont mortes et 10 ont été blessées dans le crash hier d'un avion taïwanais sur une île au large de la côte occidentale. Le vol GE-222 de la compagnie taïwanaise TransAsia Airways comptait 58 personnes à bord, 54 passagers et 4 membres d'équipage. L'avion s'est écrasé près de l'aéroport de Magong sur une île de l'archipel de Penghu au large de la côte occidentale de Taïwan à cause du mauvais temps, a précisé la compagnie aérienne sans donner de détails.
Human Rights Watch affirme que des frappes aériennes indiscriminées du gouvernement irakien ont tué au moins 75 civils et fait des centaines de blessés depuis juin. Dans un nouveau rapport, l'Organisation de défense des droits de l'homme soutient que les forces irakiennes utilisent des barils d'explosifs alors même que Bagdad refuse de reconnaître l'utilisation d'armes aussi dangereuses. Pour Human Rights Watch, la lutte contre une insurrection vicieuse n'est pas une raison de tuer des civils partout où l'armée pense que les extrémistes peuvent se cacher.
Le réseau social en ligne américain Facebook a plus que doublé son bénéfice net au deuxième trimestre, où il a continué d'afficher une forte croissance de ses recettes publicitaires, en particulier mobiles. Le bénéfice net a atteint 791 millions de dollars contre 333 millions un an plus tôt. Le bénéfice par action, qui sert de référence à Wall Street, a dépassé 10 cents la prévision moyenne des analystes à 42 cents. Les recettes publicitaires ont encore grimpé de 67% avec une part croissante des revenus mobiles. Voilà pour le journal. Merci Anne Alberson. Il est 5h41 en temps universel, 1h41 ici à Washington. Après 8 mois de violence meurtrière en Centrafrique, un rayon d'espoir, lui, finalement à l'horizon. À l'issue de quelques jours de négociations à Brazzaville, les représentants des groupes armés Seleka et Anti-Balaka ont signé mercredi soir un accord de cessez-le-feu de promotion d'un dialogue national. Les leaders des communautés musulmanes et chrétiennes qui avaient fait le déplacement dans la capitale congolaise ont également signé le document rendu possible grâce à la médiation active du président Denis Sassou Nguesso, un rôle que nous décrit Nguela Ngoussou, notre correspondant à Brazzaville.
Il faut dire que le rôle a été très crucial parce que finalement, juste après l'ouverture de ce forum le lundi, la coalition Seleka est partie, n'est plus revenue. On nous a dit finalement dans les coulisses que nous sommes allés les voir à l'hôtel, qu'ils demandaient qu'on inscrive dans l'ordre du jour la partition de la République centrafricaine et qu'on inscrive dans l'ordre du jour également le départ de la présidente de transition, Madame Catherine Samba-Panza. C'est des points, comme vous voyez, un peu difficiles. Mais donc, depuis là, il y a eu des tractations jusqu'à ramener la coalition Seleka à revenir sur la table de négociation et signer cet accord. Tout à l'heure, Mohamed Dafan, le général Dafan, disait que cet incident était dû au dysfonctionnement interne de la coalition. C'est tout ce qu'il a dit, et on ne sait pas exactement ce qu'il voulait dire par là, mais qu'au nom de Michel Dodoudia, au nom de toute la coalition Seleka, il s'engageait à signer cet accord et à mettre fin aux républiques centrafricaines. D'ailleurs, il a déploré pourquoi ils avaient pris les armes pour revendiquer leurs droits, il dit, des droits reconnus par la communauté nationale et internationale.
Et l'accord a été également signé par M. Ngaï Sona des Anti-Balaka.
Tout à fait, et c'est l'image qu'on retiendra. Le général Dafan et Patrice Edouard Ngaï Sona se sont tenus la main dans la main pour aller à la tribune et signer cet accord. Ils sont restés assis côte à côte quand ils ont fini de signer l'accord. Sont redescendus ensemble, c'était non vraiment la main dans la main, c'était la grande ambiance. Et lorsque toutes les parties centrafricaines sont passées signer cet accord, on a exécuté l'hymne national de la République centrafricaine, c'était la grande joie au palais des congrès de Brazzaville.
Voilà, c'était donc notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngoussou, qui répondait aux questions de Chérubin Dorsil. Une vive émotion donc a régné dans la salle pendant la signature de cet accord de cessation des hostilités entre la coalition Seleka et les milices anti-Balaka. Félix Yepassis Zembrou a joint sur place l'une des déléguées, Kadidiatou Hassan Diankadou. Elle revient sur donc la signature de ces accords.
Tout le monde vraiment était émotionné et puis il y avait l'hymne national qu'on avait chanté pour montrer l'unité des Centrafricains et l'ambiance dans la salle. Il y avait des émotions Les gens ont pleuré et j'espère que maintenant, il n'y aura plus de problème. La délégation va rentrer au pays. Tout le monde maintenant va regagner sa domicile et puis la circulation sera un peu partout au lieu d'être limitée dans le coin.
Et la délégation de Séléka n'est plus revenue sur sa demande de partition du pays?
Non, bon, j'espère que la demande de partition du pays, ce n'est pas la solution. Notre pays, c'est un pays unique. On a toujours cohabité les musulmans et les chrétiens ensemble. Mais sachez que ce qui s'est passé dans notre pays, ce n'était pas une guerre sainte, mais purement politique. Et aujourd'hui, les accords qui se sont signés ici à Brazzaville, j'espère que tout le monde a su que ce n'était pas en tout cas une guerre sainte, mais quelque chose de passable comme ça. On essaie d'oublier et tourner la page. Et je souhaite que si la délégation sera à Bangui, tout le monde va maintenant circuler partout dans le territoire centrafricain et pourquoi pas dans les arrière-pays comme auparavant.
C'était donc Kadidiatou Hassan Diankadou.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
En RDC, le travail des femmes mariées pose problème dans certains foyers à Goma au nord Kivu. Pourtant, la constitution congolaise garantit le travail à la femme au même titre que l'homme. Primo Pascal Rudaigua est notre correspondant à Goma.
Plusieurs femmes dénoncent l'aliénation de leur droit de travailler par leurs époux. L'une d'elles exerçait le commerce et d'un coup, elle a eu l'ordre d'arrêter l'activité pourtant lucrative pour sa famille.
Ma belle-sœur était venue m'intéresser pour exercer le petit commerce avec d'autres femmes pour subvenir à certains besoins élémentaires de mon foyer. J'ai disposé de peu de sous pour commencer. Nous quittions à la maison à 5 heures du matin pour nous rendre au Rwanda, amener des souliers usagés. Un jour, je suis rentrée à la maison aux environs de 19 heures et mon mari n'a pas bien digéré ce retard. Et dès lors, il m'a interdit de reprendre avec ce commerce. Il m'a demandé de s'occuper de mes enfants.
Certains hommes interrogés à ce sujet parlent de l'injustice envers les femmes.
Je ne peux pas encourager cette mentalité. La femme contribue aussi au développement de la société.
D'autres hommes, par contre, pensent que les femmes deviennent insoumises et incontrôlées quand elles ont une activité lucrative.
Les femmes aussi se mécomportent d'une part. Cela peut causer à ce que l'homme refuse dans la maison qu'on ne doit pas travailler.
Rachel Mouloulou, présidente de l'Association des femmes unies pour le développement endogène et intégral, s'insurge contre les hommes qui bloquent l'épanouissement de la femme.
Le problème, c'est l'orgueil des hommes. L'homme est mécontent de la promotion de la femme. Cet homme-là d'aujourd'hui, pour civilisé veut pérenniser les anciennes coutumes, promouvoir des religions qui disent même que la femme n'a même pas le droit de parler devant les hommes.
Pour Marcelin Mouchoko, défenseur des droits humains, les femmes mariées qui travaillent devaient rapprocher la coutume au modernisme pour éviter les querelles dans leur foyer.
La femme devait normalement comprendre qu'en qualité de maman, en qualité de la femme de ménage, elle devait normalement continuer à vivre tel que, je ne dis pas la coutume, l'oblige, mais tel que avec son modernisme l'oblige.
D'autres femmes ont tout simplement décidé de casser le mariage et évoluer librement. Mais c'est une attitude qui n'honore pas les familles congolaises. Goma, Primo Pascal Rudaigua pour La Voix de l'Amérique.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum ce jeudi. Lutte contre le sida, les défis encore à relever. À l'heure où se tient à Melbourne la 20e conférence internationale sur l'épidémie, vos questions et commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique ou à fr@voanews.com. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
À l'occasion de l'anniversaire des 20 ans au pouvoir du dirigeant gambien Yahya Jammeh, 36 organisations de défense de la liberté d'expression et des droits humains ont publié un appel. Elles exigent une chose, la fin de l'impunité pour les violations des droits humains en Gambie. Parmi ces ONG, Reporters sans frontières qui a rappelé que Yahya Jammeh figure sur sa liste des 39 prédateurs de la liberté de la presse. On écoute la responsable Afrique de RSF, Cléa Kahn-Schreiber.
Yahya Jammeh, c'est 20 ans pendant lesquels les droits de l'homme ont été régulièrement bafoués en Gambie et où le citoyen lambda vit sous un régime de terreur, mais encore plus tous ceux qui essayent de s'exprimer publiquement contre le régime, et cela comprend évidemment les journalistes.
Le gouvernement gambien refuse toujours de mettre en œuvre les décisions de la Cour communautaire de justice de la CEDEAO, notamment en ce qui concerne des décisions concernant les journalistes.
Effectivement, il y a eu 3 décisions qui ont été rendues. Dans les cas de Moussa Saïdi Khan qui a été torturé en 2006, de Daïda Idara qui a été assassiné en 2004 et du journaliste Chief Ebrahim Amane du Daily Observer qui lui a disparu en juillet 2006 et dont on est toujours sans nouvelles à ce jour. Les rumeurs circulent pour savoir est-ce qu'il est détenu dans les geôles gambiennes ou est-ce qu'il aurait été définitivement porté disparu, pour utiliser un euphémisme. Et dans ces 3 cas, les décisions de la CEDEAO ont été rendues, demandant à la Gambie soit de mener des enquêtes, soit de fournir des dommages et intérêts aux familles des victimes et ou aux victimes de torture. Dans aucun de ces 3 cas, le gouvernement gambien ne s'est exécuté et n'a mis en œuvre les jugements de la Cour de la CEDEAO.
Et par ailleurs, depuis l'avènement au pouvoir de Yahya Jammeh, le système judiciaire gambien a été considérablement affaibli.
Oui, on le voit à différents signes. Déjà, du point de vue normatif, les lois gouvernant la communication et la liberté d'information ont été amendées pour devenir beaucoup plus restrictives envers les journalistes, avec des peines de prison accrues, des amendes accrues également, notamment pour ce qui concerne les communications Internet, de façon très générale. Par ailleurs, des définitions extrêmement larges et donc complètement applicables au gré de l'exécutif et du judiciaire ont été prises dans le code pénal, comme le fait de donner de fausses informations à un fonctionnaire. Donc, enfin bon, c'est des espèces de concepts fourre-tout qui permettent en fin de compte au texte d'être instrumentalisé. Et ce qu'on voit d'ailleurs, c'est qu'au quotidien, les journalistes qui sont en procès se trouvent en fin de compte coincés dans une machine judiciaire qui les broie petit à petit parce qu'ils se font trimballer d'audience en audience reportée, qu'une fois c'est leur avocat qui n'est pas présent, que la fois d'après c'est le juge qui ne peut pas être à l'audience. Et donc en fin de compte, ils se retrouvent dans une procédure sans fin qui les maintient dans une situation précaire dans laquelle ils ne peuvent absolument pas exercer librement leur métier de journaliste.
Voilà, c'était donc la responsable Afrique de RSF, Claire Kahn-Schreiber, qui était jointe par Camille Gros-Didier. Écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique, c'est l'heure des sports et j'accueille Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Bagassi.
On commence par du football. Hein. L'Allemagne maintient sa confiance à Joachim Löw.
Oui, le sélectionneur des nouveaux champions du monde a annoncé ce mercredi qu'il restait en poste jusqu'à l'Euro 2016, comme le prévoit son contrat. « Je n'ai pas pensé une seconde à arrêter », a assuré le sélectionneur de 54 ans dans une interview publiée sur le site de la Fédération allemande de football. Le technicien avait prolongé en octobre dernier son contrat jusqu'en 2016.
Et Nicolas, la prochaine Coupe du Monde, elle aura lieu en Russie en 2018.
Et oui, des responsables politiques allemands appellent à retirer l'organisation du Mondial à la Russie après le crash d'un avion malaisien attribué à un tir de missile depuis une zone contrôlée par des séparatistes pro-russes en Ukraine. Le ministre de l'Intérieur de l'État de Hesse, dans le centre-ouest, a jugé inconcevable que la Coupe du Monde puisse se tenir en Russie si Moscou ne coopère pas activement à l'enquête sur le crash.
Et en rubrique transfert,
c'est quasi fait, sous réserve de la traditionnelle visite médicale. Serge Aurier, le latéral droit de Toulouse, doit s'engager avec le Paris Saint-Germain. L'international ivoirien doit paraffer un contrat longue durée avec le club de la capitale française.
Enfin, cyclisme Tour de France.
C'est le Polonais Rafał Majka de l'équipe Tinkoff qui a remporté en solitaire la 17e étape au Plat d'Adet sur les hauteurs de Saint-Lary-Soulan. L'Italien Vincenzo Nibali, troisième de l'étape, a conforté sa position en tête du classement général au terme de cette étape, la deuxième du triptyque pyrénéen.
Après les sports, on passe à la plage musicale avec Roger Muntu. Bonjour Roger.
Bonjour Bagassi. La Bibliothèque du Congrès, Library of Congress, hein, la Bibliothèque nationale des États-Unis, a rendu hommage à l'auteur-compositeur américain Billy Joel en lui décernant son prix pour la chanson populaire. On écoute ce matin un de ses plus grands succès, Piano Man.
Shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin.
Le directeur de la bibliothèque du Congrès, James Hadley Billington, annonçait que Joël recevra le prix à Washington en novembre.
Oui, Bagassi, le prix décerné aux musiciens pour leur contribution tout au long de leur vie dans le domaine de la chanson populaire.
Billy Joel, Piano Man. Merci, Roger.
De rien, Bagassi. Coucou à tous nos amis de N'Djamena.
Roger Moutou, que vous suivez chaque jour dans RM Show à partir de 20h, temps universel.
Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. Now John at the bar is a friend of mine. Gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Talking with David, who's still in the Navy, and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer.
La fin de notre édition. Merci à Anne Alberson pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction de La Voix de l'Amérique. C'était Bagassi Koura à Washington. Merci de nous avoir suivis.